Aujourd'hui, je vais vous présenter Maëva Borin. Elle est comportementaliste et éducatrice canine. Les animaux partagent son quotidien depuis son enfance. Chiens, chats, lapins, chevaux et poules lui ont tous appris à s'adapter et à réfléchir sans cesse dans diverses situations, parfois insolites. Travailler avec le chien devient une révélation en 2012. Donc elle a suivi une formation d'éducateur canin en 2013 et 2014. Devenir comportementaliste canin fut sa seconde révélation lors de sa rencontre avec Dominique Wolf, comportementaliste canin à Dame, formé par Michel Chanton. Elle est venue aujourd'hui s'installer dans le Lot et propose des techniques d'éducation et de communication avec l'animal assez innovantes. Et nous allons en parler. Bonjour Maëva.
Bonjour.
Alors si je comprends bien, la relation avec l'animal est une passion.
Oui, tout à fait. Ça reste quelque chose qui est présent depuis toute petite, comme je l'ai expliqué sur mon site internet. Et ouais. Le lien à l'animal est pour moi quelque chose que je n'explique pas. En fait, ça fait partie intégrante de ma vie, de ma personnalité. Et j'ai fait le test de partir en voyage 3 mois au Canada. Et sans animaux, ça reste compliqué pour moi. Donc voilà, ça reste un vrai besoin et un support d'apprentissage même, en tout cas sur ses propres mécanismes et puis même ce qu'on peut aujourd'hui, même on voit plein de médiations animales, choses comme ça, ce qu'on peut obtenir par le biais de l'animal, que ce soit un cheval, un chat, un chien, en tout cas même des nacs, les tout petits animaux, ce qu'on peut obtenir avec l'enfant, les personnes âgées ou même les personnes atteintes de handicap. Donc je trouve qu'il y a un vrai beau lien en tout cas avec le chien, et en tout cas pour le chien pour ma part.
Du coup, comment tu t'es dit que tu allais en faire un métier?
Ça a été une grosse question, parce qu'au départ, je voulais être vétérinaire pour les félins. Quand on est enfant, on a toujours des grands rêves. Et puis, petit à petit, ça s'est affiné avec avoir un projet avec une ferme, etc. Et puis, j'ai essayé d'être assistante véto. Je suis passée par un monitorat aussi dans les chevaux. Et puis, je me suis dit, les chevaux, je le garde en passion. Et puis, après assistante véto, j'ai fait une formation, mais qui n'était pas très concluante. Et ça a été un jour, j'étais en colocation avec une amie qui avait son chien. On a récupéré le chien qu'elle avait chez sa mère. Et ça a été la révélation avec ce chien. C'était très drôle. Je m'en occupais tous les jours dans la colocation. Et puis, je me suis dit, OK, c'était un gros bouvier bernois, un amour de chien, un gros boubou. Et puis, je me suis dit, OK, je crois que j'ai envie de travailler avec le chien. Et puis, de là, ça ne s'est pas arrêté. Et j'ai pris mon chien 2 mois plus tard. Et de là, j'ai commencé à faire un peu d'éducation canine avec lui. Il avait 7 mois. Et puis je me suis inscrite à la formation Agrama après, parce que je savais où je voulais aller. Et puis je me suis dit, je crois que dans le projet que j'ai d'une ferme, etc., c'est un projet que j'aimerais bien mettre en place. Et puis depuis 2012, l'idée ne me lâche pas et me poursuit. Et puis je continue en fait d'apprendre, de me former, d'avoir des lectures tout autour de ce sujet-là. Parce que c'est vraiment un vrai sujet qui me passionne. Et puis l'aspect comportement qui du coup prend une grosse place, parce que j'aime tout ce qui est psychologie lié à l'humain. Et du coup, l'avantage avec le chien, c'est que ça nous oblige un peu à se remettre en question.
En tout cas,
même travailler avec l'animal, que ce soit avoir des chats ou des chevaux à la maison, en tout cas à partir du moment où on travaille avec le chien ou le cheval, ou même relationné, que ce soit du travail ou de la relation, obligatoirement, quand on n'obtient pas quelque chose d'un animal, ça nous amène à se questionner ou pas. Il y en a qui ne se questionnent pas, et moi en tout cas ça me questionne. Et puis de mieux les comprendre aussi, pourquoi ils adoptent tel ou tel comportement. Et c'est vraiment cette partie-là, moi, qui me fascine en fait.
Alors, on parle d'éducation canine depuis très longtemps, et ce terme de comportementaliste arrive de plus en plus. Ouais. Comment tu le définis?
Alors, terme de comportementaliste aujourd'hui, il y en a plein de définitions. Beaucoup de personnes ont encore du mal à faire la différence entre éducateur et comportementaliste. Même aujourd'hui, quand on écoute les nouvelles définitions d'éducation canine, en fait, ça se mélange avec le comportementaliste. J'ai envie de dire aujourd'hui, les deux, il n'y aurait même pas de définition à avoir sur les deux, parce que quand on aime le chien, tout est lissé, en fait, il n'y a même pas de question de comportementaliste ou éducateur. L'éducation canine, je l'associe plutôt à tout ce qui est technique, ce qu'on peut voir en club canin, assis, couché, pas bouger, tout ce qui va... Ouais. Je l'associe vraiment à de la technique pure et dure, ce qui, moi, me fait pas vibrer, parce qu'en fait, je m'en fiche complètement. Mais voilà, il y en a qui se passionnent et puis qui font des choses incroyables avec les animaux. Et j'ai envie de dire, avec un terme qui est très mal vu aujourd'hui, c'est la notion de dressage. Oui. Aujourd'hui, effectivement, quand on cherche la définition de dressage sur Internet, que ce soit par des sites qui tiennent la route comme CNRTL sur les définitions ou même Synonymo, peu importe, ça reste... Il y a une connotation très négative, mais il y a une définition qui en est, c'est tout simplement des apprentissages. Et quand on parle de dressage à cheval, ce n'est pas du tout vu comme quelque chose de négatif, c'est même quelque chose de très noble, c'est beau quand on voit quelqu'un faire du dressage à cheval. Et en attendant, quand on parle de dressage avec le chien, c'est vu comme « Oh là là, mon Dieu, c'est de la coercition et au secours ». Moi, j'aime bien en garder la définition de « Ce n'est que des apprentissages ». Et que oui, on éduque un enfant et on fait du dressage avec un chien, parce qu'un enfant, on peut lui expliquer. Mais aujourd'hui, le mot « éducation » est vraiment rentré dans les mœurs et on ne parle surtout plus de dressage avec le chien. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un terme qui, moi, avec lequel j'ai du mal parce qu'on peut vite tomber dans de l'anthropomorphisme, mais on en parlera peut-être plus tard.
Tout à fait.
Donc voilà, là-dessus, l'éducation canine, ça va être plutôt des petits conseils du quotidien basiques. Aujourd'hui, n'importe quelle personne va appeler un éducateur canin et il n'appelle pas un comportementaliste pour commencer, par exemple, avec son chien. Et la différence avec le comportementaliste, bah, c'est que rien que le terme comportementaliste, c'est que c'est en fait tout simplement l'étude et l'analyse du comportement. Et en fait, on va se baser sur des principes scientifiques et éthologiques. C'est tout simple. L'éthologie, ce n'est pas une méthode ni une technique, comme beaucoup de gens le croient et comme c'est malheureusement aussi transmis en équitation. Je fais de l'éthologie avec mon cheval. On ne fait pas de l'éthologie, en fait. On se base sur les principes éthologiques, qui est l'étude des animaux dans leur milieu naturel. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on prend cette définition-là, je ne vois pas comment on peut s'en servir comme une technique ou une méthode. Par contre, c'est, OK, j'ai de la connaissance sur le fonctionnement de l'animal, en général, par le biais de scientifiques, justement, qui ont passé des centaines d'heures à observer les animaux, à faire des expériences, etc., pour comprendre leurs réactions, etc., tout simplement dans leur milieu. Et aujourd'hui, le milieu naturel du chien, pour moi, c'est intimement celui de l'humain. Et il n'y a plus de milieu naturel du chien, à part dans certains pays, encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, s'intéresser aux chiens, c'est s'intéresser aux chiens dans un monde humain.
Et dans le monde humain, mais dans son monde aussi d'humain qu'il connaît et qui peut être, le comportement peut être différent dans un autre milieu avec d'autres humains et un autre environnement.
Exactement. Après, ça reste sur l'éthologie, c'est vraiment des principes scientifiques, c'est-à-dire c'est vraiment comprendre les capacités, la cognition de l'animal. Okay. Qu'est-ce qui va, admettons, je ne sais pas, ce bruit-là, qu'est-ce que ça va générer chez l'animal? Ils ont fait plein d'expériences, ou même comment l'animal communique avec l'homme. Il y a beaucoup maintenant de reportages qui sont faits là-dessus, mais notamment il y a du même Jamie, vous savez
comment ça s'appelle, c'est pas sorcier,
voilà, c'est pas sorcier, là aujourd'hui il y a pas mal de reportages qui sont sortis aussi là-dessus qui sont très intéressants. Et en tout cas, le comportementaliste, on va plus étudier le système du foyer. Bon, en tout cas, quand j'interviens chez les gens, c'est de comprendre, ok, quel est le problème, on va aller chercher le point noir en fait dans l'environnement des gens qui fait que ça ne fonctionne pas avec le chien, et on va en fait rétablir des règles de vie, on va mieux comprendre l'animal. En tout cas, moi j'aborde le chien sous tous ses angles et j'aborde aussi des notions sur les principes éthologiques du chien pour que les gens comprennent comment fonctionne le chien de base, en fait, sur l'espèce canine et pas la race du berger allemand ou du chihuahua ou en tout cas du Jack Russell par exemple, mais c'est le chien, comment fonctionne un chien déjà de base. Et quand on a, un regard beaucoup plus éclairé sur le fonctionnement du chien, ça permet après de mettre des choses en place. Et j'adore, moi, toujours aller chercher le pourquoi, du coup. Ouais. Avant d'aller de comment on va faire, c'est pourquoi le chien fait ça. Et que quand on comprend le pourquoi, bah, bizarrement, après, ça roule tout seul. Et c'est pas juste donner des conseils d'éducation, demander-lui de s'asseoir pour ça. Mais en attendant, s'il y a un problème dans la relation, et c'est là où moi, je mets un gros point d'honneur à la relation entre l'homme et l'animal dans le quotidien, qui fait que s'il y a un problème dans la relation, le chien, il n'écoutera pas forcément, parce que justement, il y a un problème dans la relation. Donc voilà, la différence avec comportementaliste, elle est là. Et après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a des éducateurs comportementalistes. Il y en a qui... Voilà, enfin, chacun en a sa définition. Moi, c'en est la mienne. Et aujourd'hui, je trouve que l'éducation canine, c'est en train de se lisser et de se mélanger avec un comportementaliste parce qu'on s'intéresse au fonctionnement du chien et non plus à juste comment on fait pour faire asseoir un chien ou pas bouger ou coucher et reste à ta place et puis c'est tout, quoi.
C'est ça.
Ça se développe, en tout cas.
Alors, on parle beaucoup ces dernières années d'éducation positive.
Ouais.
On parle de communication animale aussi. Tous ces termes, en fait, on ne sait pas trop comment les interpréter.
Ouais.
Si on ne met pas de l'anthropomorphisme, justement, entre l'animal, l'humain, on ne projette pas sa propre peur sur l'animal, etc. Comment décoder tout ça?
Comment décoder tout ça? Même moi aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai du mal. Parce que, en fait, il y a autant de... Moi, j'ai beaucoup de mal avec les termes techniques, méthode avec le chien, quand on sait qu'il s'agit que d'individualité. Parce que, on est tous différents. Il y a des principes. Et c'est pour ça que j'aime bien aborder les principes éthologiques, parce qu'il y a une base de fond. Mais dans la base de fond, en fonction de l'individu, d'où il vient, ce qu'il est, avec qui il vit, dans quel environnement il vit et qui il rencontre tous les jours, oui, on va se servir de la base. Et puis des fois dans la base, on se rend compte que la base ne fonctionne pas. Donc il va falloir chercher ailleurs. Et pour répondre à ta question, l'éducation positive aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on enlève tout ce qui est comportement coercitif. La coercition, c'est tout ce qui va atteindre l'intégrité physique et psychologique de l'animal. C'est-à-dire que c'est comme un enfant qui, par exemple, vivrait dans un milieu où les parents crient tous les jours, ou en tout cas, il est violenté ou choses comme ça. J'ai envie de dire, l'éducation avec le chien, c'est la même chose. Et quand on parle d'éducation positive, c'est qu'on n'adopte plus ce type de comportement et qu'on peut obtenir, en fait, par des choses qui sont agréables pour le chien et douces, tout autant de résultats que par les anciennes méthodes qui sont aujourd'hui et maintenant complètement révolues, et on est de plus en plus de consoeurs et confrères avec des consoeurs et confrères à se battre un peu contre ça et de se dire on arrête, on n'a plus besoin d'être violent avec le chien pour enfin obtenir, ce n'est pas une bête féroce, ça reste un être vivant avec sa sensibilité. Après, il y a quand même une limite à avoir sur l'éducation positive qui, pour moi, selon mon point de vue personnel, prend trop d'implure dans le positif, où en fait maintenant on ne dit même plus non au chien. Sauf que quelle conséquence ça a ? C'est qu'aujourd'hui on a des chiens qui ne savent même pas ce que c'est la frustration ni la contrainte. Et il faut faire, pour moi, il y a une différence entre, il y a une contrainte dans la coercition qui est donc le maintenir, de manière stressante et en tout cas angoissante pour l'animal, et le contrainte de tu n'as pas le choix, c'est comme ça, il faut t'adapter. Ouais. Et sauf qu'aujourd'hui, moi je récupère des chiens qui sont surexcités, surexcitables, qui ne savent même plus ne pas rencontrer un chien calmement en laisse parce qu'en fait on lui a surtout pas appris la frustration d'attendre avant d'aller rencontrer un congénère. Donc hop, il est lâché, c'est à lui une bombe. Moi, vous faites ça sur mon chien qui a 10 ans, qui a mal au dos. Je peux vous assurer qu'il va se prendre sûrement le jeune chien tout foufou qui n'a pas appris à être calme à l'égard d'autres congénères. Il va sûrement se prendre une réprimande. Mmh. Et après, on va dire que mon chien, par exemple, sera agressif. Alors qu'en fait, non, c'est que l'attitude du chien n'est pas adaptée, parce qu'il n'a pas appris à être calme, à gérer sa frustration. Oui, un congénère, on n'ira pas forcément le voir. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas dire non au chien. Moi, je suis désolée, moi, on m'a dit non dans mon enfance et je ne suis pas traumatisée. Et au contraire, je sais ce que c'est. Quand c'est non, et ça me permet d'accepter qu'on n'obtient pas tout ce qu'on veut quand on veut. Et pour moi, j'ai envie de dire c'est la même chose avec le chien. Et c'est même des notions qui sont essentielles à apprendre à un chiot si on veut un chiot qui soit équilibré. Parce qu'un enfant qui n'a pas de cadre, à qui on dit oui tout le temps, en fait, il est perdu, cet enfant. Avec le chien, c'est pareil.
Ouais, tout à fait.
Donc, même si j'ai beaucoup de mal avec la comparaison du chien et l'enfant, ça reste de la relation. Et en fait, un enfant à qui on pose un cadre, c'est pas être dur. C'est un cadre qui est ferme. Quand c'est non, c'est non. Mais on peut le dire en toute gentillesse, en toute douceur. Et puis, plus on habitue un enfant ou un chien ou un cheval ou n'importe quel humain ou même des employés dans une boîte, quand il y a un cadre, il y a tout le monde qui suit, mais un cadre où les choses sont dites, les choses sont expliquées calmement, gentiment. Et puis quand il y a un moment donné, il faut serrer un petit peu plus la vis, mais c'est pas serrer la vis en version « tu vas voir, je vais t'expliquer ce que c'est la vie ». Ton comportement n'est pas adapté, il va falloir que tu gères encore plus ta frustration. Et puis petit à petit, le chien se rend compte qu'il n'y a pas besoin de se mettre dans des états hors normes pour pouvoir obtenir les choses, et c'est en tout cas pour moi ça qui est important. Et je mets une limite, en tout cas, à l'éducation positive et ce qu'on en met derrière. En fait, je pourrais dire que je travaille en éducation positive, mais j'aime pas l'utiliser parce que j'aime pas ce qu'on met derrière, aujourd'hui, en tout cas.
Qu'est-ce qui est le plus difficile de travailler avec le chien ou de travailler avec les maîtres du chien?
Pour moi, il n'y a rien de difficile. Les chiens, en fait, au risque de choquer peut-être certaines personnes, les chiens vont bien. Les chiens vont bien et ils sont, pour moi, il y a quand même une partie de leur propre vécu qui est très important à prendre en considération. Mais aujourd'hui, le chien s'adapte avec qui il interagit. Et il s'adapte à l'environnement dans lequel il est. Et travailler, moi, avec l'humain, j'adore. Parce qu'en fait, c'est ce qui me passionne en fait, le plus dans mon métier. Oui, le chien, j'adore ça. Parce que pour moi, ils sont support d'apprentissage. Et ils sont simplement le miroir de ce qui peut dysfonctionner dans un foyer. Et en fait, quand on voit ce qui dysfonctionne et qu'on explique aux humains comment ils fonctionnent et comment on peut relationner autrement avec le chien, les gens sont souvent très réceptifs et c'est même plutôt un plaisir. Pour moi, il n'y a pas de difficulté, en fait, il y a des contraintes. Il y a effectivement, après, je cache pas qu'il y a des personnes qui n'appliquent pas ce que je conseille et c'est ce qui peut faire que nous, en tant que professionnels, on peut se remettre en question. Est-ce que je me suis loupée? Est-ce que je me trompe en fait dans ma façon de transmettre les choses? Et c'est là où je trouve que c'est important d'être plusieurs consoeurs et confrères sur un même territoire, parce que la façon dont moi je vais expliquer les choses, ça correspondra pas forcément à tout le monde, et ce qu'un confrère va expliquer, ça correspondra pas forcément, et par contre ça correspondra avec moi. Donc j'aime bien cette ouverture d'esprit, de se dire il y en a pour tout le monde, et il faut trouver, en fait, pour s'en sortir avec le chien, il faut trouver surtout la personne qui peut nous aider. Et c'est d'aller vers, là j'aime bien l'état d'esprit, le discours me plaît, et en fait c'est comme ça fonctionne. Je me suis souvent questionnée de pourquoi, par exemple, il y en a, ils font 300 en club canin et ils n'ont aucun problème avec leur chien. Et puis il y en a, ils font 10-15 séances, ça ne fonctionne pas, et ils font 3 séances avec moi et ça fonctionne. En fait, c'est tout simplement une question d'individualité et une question de le discours, ça m'appelle, ça me parle, ça résonne et on est prêt à entendre. Et puis après, moi j'ai appris avec le temps, et je veux dire, c'est peut-être la partie la plus difficile pour moi, c'est d'accepter que certains propriétaires de chiens ne sont pas prêts à changer. Et qu'il y a des chiens aussi qui ne sont pas prêts à changer non plus. Donc c'est de se dire que c'est comme ça, et s'ils ont envie de me rappeler, ils me rappellent, et s'ils me rappellent pas, c'est qu'il n'y a pas de problème, et c'est qu'ils ont envie de poursuivre comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est important de le mettre en avant, que les gens se disent pas que super, on fait appel à un comportementaliste, tac, ça ira tout seul. Non, parce qu'en fait, si on n'applique pas ce que je conseille, ça ne fonctionne pas. Mais en attendant, il y a des gens à qui ça ne correspond pas. Et là, j'ai des clients que j'ai redirigés. De dire, allez voir plutôt cette personne-là, parce que je pense que ça vous correspond mieux. Ou j'ai même des fois refusé des clients par rapport à ce qu'ils me demandent. Parce que moi, s'ils veulent du assis, du coucher, du pas bouger, c'est pas ce que je propose. Et puis, c'est pas ce qui m'intéresse. Et c'est pas ce qui va régler, par exemple, un problème de rappel ou un problème d'agressivité sur congénère ou humain. Donc voilà, c'est que je trouve que c'est hyper important de se dire, jusqu'à limite, le plus difficile, c'est de trouver nos limites, ce qu'on accepte, qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui ne nous correspond pas. Et limite, la difficulté pour moi, elle est là, c'est de me dire que je ne peux pas aider tout le monde et que tout le monde n'entendra pas mon discours qui, pour moi, a du sens et me parle et parle à plein d'autres clients, mais ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, c'est de réussir à se dire qu'il en faut pour tout le monde, et c'est ça qui est important.
Alors, dans les techniques que tu utilises, il y a l'EMDR. Alors, l'EMDR, on connaît plus cette technique utilisée chez l'humain, qui est une technique pour isoler peut-être des événements ou en tout cas régler un comportement.
Là, du coup, pour t'éclairer, on n'est pas là pour isoler des événements ou régler un comportement. C'est plus une technique de thérapie qui vise à traiter tout ce qui est état de peur, d'anxiété, de stress chez l'animal. Okay. Donc, chez l'humain, c'est beaucoup utilisé maintenant. Ça a été très stigmatisé dans tout le monde entier, et notamment dans les hôpitaux, sur les grands brûlés ou les traumatisés suite à accidents graves. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des résultats incroyables, et en fait on traite vraiment le traumatisme en lui-même.
Mais comment cette technique qui est utilisée à la base pour l'humain peut être transposée sur le chien?
Alors du coup, c'est une praticienne en EMDR certifiée Europe qui s'appelle Fabienne Lannes-Gilibert, avec qui du coup je suis encore en formation. Donc ça, c'est un service que je vais proposer plus tard. Là, je suis encore en certification. Et ce qui un jour était avec son chien, trouve un autre chien dans la rue, et lorsqu'elle fait rencontrer ces deux chiens, ça part en... Enfin, en tout cas, ça, la rencontre ne se passe pas forcément très bien, et elle voit son chien ou l'autre chien en état de stress, et se dit instinctivement, tiens, je vais essayer de faire ce que je ferais avec mes patients en EMDR. Et elle voit un résultat quasi instantané. Et donc là, elle a commencé à réfléchir à la technique, comment le conceptualiser sur les animaux. Et elle a passé 3 ans à faire des tests, à réfléchir à des protocoles. Et en fait, c'en est devenu du coup une technique de thérapie pour les animaux. Et on peut traiter tout type de peur, que ce soit la peur de l'humain, la peur d'un aspirateur, et chez tous les mammifères. Puisqu'on a un cerveau qui fonctionne aussi, chaque mammifère a un cerveau émotionnel. Donc aussi le chien, le cheval ou le chat ont des émotions. Donc ça, c'est enfin... C'est pareil, ça s'étend de plus en plus et on l'entend de plus en plus, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et en fait, on va passer par le corps, c'est-à-dire que le MDR chez l'humain, ça passe essentiellement par l'œil, enfin en tout cas par le... Comment ? Par le visuel.
Le visuel, le prisme visuel, ouais.
Donc en fait, ça va être tout simplement des mouvements oculaires bilatéral, en fait, de gauche et de droite. Et en fait, on a transposé ça chez l'animal par le biais du contact. Donc il faut aussi des animaux qui soient OK avec le contact. Donc c'est pas forcément évident. Et après, on peut faire aussi en auditif si jamais l'animal n'est pas du tout OK avec le contact. Mais c'est quand même plus compliqué. Mais en tout cas, ça se fait. Donc voilà, ça reste des traitements qui sont ponctuels. Il faut qu'il y ait un besoin. Moi, aujourd'hui, pourquoi je veux le proposer, c'est que je le vois en complément. Et pas pour régler en tout cas une problématique. C'est-à-dire que là, j'ai une cliente qui a une chienne qui a peur des étrangers et peur des bruits forts, tout ce qui est sono. La ville, c'est très anxiogène pour elle. Donc, on a beaucoup travaillé en comportement en parallèle. Et là, en fait, le MDR, pour moi, peut être un vrai complément. Après, ça reste quand même des traitements qui peuvent être un petit peu longs. Donc, voilà, je préfère ne pas le cacher parce que, pas vendre en tout cas du rêve aux gens de dire « Waouh, ouais, super, en 3 séances, c'est fini ». Non, ça va dépendre de l'animal, ça va dépendre de sa capacité de gestion émotionnelle. Parce qu'il y a des chiens qui sont extrêmement sensibles. Et ces chiens-là, c'est beaucoup plus long parce qu'ils ne se donnent pas comme ça. Et y a des chiens qui sont dans la résistance, c'est-à-dire que lâcher prise et se détendre, c'est très compliqué pour eux. Donc il y a des protocoles, moi on met beaucoup de choses en place et en comportement pour que le MDR après fonctionne. Parce que justement, si l'animal est jamais prêt à se détendre, il y a ce qu'on appelle une mise en état de bien-être chez l'animal à faire avant les traitements. C'est-à-dire que quand on a eu, je ne sais pas, pendant le traitement, quelque chose qui était trop stressant pour l'animal, on peut remettre l'animal en état de bien-être parce qu'on l'aura installé au préalable. Et ça, c'est des processus physiologiques au cœur du cerveau qui se passent, que nous-mêmes, en fait, même si on ne voit pas visuellement parlant, on ne voit rien qui se passe, en tout cas, en interne, il se passe des choses.
D'accord. Donc, ouais. Mais c'est un mélange de d'hypnose, de T-touch,
Vraiment juste avec l'animal. On est sur des simples stimulations. On va légèrement mettre l'animal en état de stress, entre guillemets. On ne dépasse surtout pas un seuil de tolérance. Et en fait, on effectue des stimulations bilatérales de gauche et de droite sur le corps de l'animal. Mais je précise que ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts et qu'il y a toute une façon de procéder pour que ça fonctionne. Et si on ne le fait pas correctement, ça peut avoir des répercussions bien plus délicates et même peut-être graves sur l'animal. Donc, je dis bien aux auditeurs, on n'utilise pas l'EMDR n'importe comment et on ne le fait pas soi-même parce qu'on a vu 3 vidéos en EMDR.
Oui. Sur YouTube.
Surtout pas, voilà. Parce qu'on peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc, il faut vraiment être avec un praticien qui connaît la technique, qui a été formé pour. Et dans ces cas-là, ça peut avoir... j'ai traité une jument, c'était assez incroyable. On est passé de 100 mètres de distance à passer à côté des vaches où elles s'en fichent complètement. Donc il y a un vrai résultat qui est là. Mais voilà, ça peut prendre du temps selon les cas, selon l'animal, selon le type de peur. Donc voilà, ça c'est... je verrai comment je le propose aux gens. Et puis faut quand même que le gardien, l'humain de référence de l'animal, soit prêt à s'investir pour ça. Et parce que ça demande quand même d'être un peu disponible lors des séances. Donc voilà, c'est la seule contrainte qui est là. Mais après, ce que j'aime beaucoup dans le MDR, c'est que l'état de bien-être, quand on a traité une peur, c'est que ça génère en fait un état de sérénité sur tout le reste. Là, moi, par exemple, la jument que j'ai traitée, elle est beaucoup plus calme. C'est-à-dire que quand elle est au pré, elle est beaucoup moins nerveuse. Quand on la prépare, elle est moins nerveuse. Enfin, elle est beaucoup plus calme de manière générale, en fait. Donc, c'est-à-dire que ça apporte vraiment une sérénité quotidienne dans l'état global de l'animal. Donc, c'est là où c'est, je trouve, hyper intéressant. Et on se rend compte qu'il y a plein d'animaux qui ont des micro-peurs, des micro-sensibilités. Et on se rend compte que ça peut être traité. Donc voilà, et ça peut, il y a des origines, et nous on va chercher les origines en tout cas en EMDR. Et comme je fais aussi en comportement, d'où vient la peur.
Oui, donc, c'est voilà. Ça. Ouais. Tu es installée donc sur Figeac et tu proposes plein de services.
Oui,
c'est à la carte, enfin, la carte. Quand je dis à la carte, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'animal et de ce dont il a besoin.
Oui, alors aujourd'hui, j'ai complètement changé ma formule. Au départ, j'étais, comme on fait beaucoup en tant qu'éduc comportementaliste ou éduc comportementaliste, c'est qu'on fait à domicile ou en tout cas, on a un terrain et on fait quelques cours en groupe. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs formules qui sont souvent des séances individuelles et des séances en groupe. Ça, aujourd'hui, moi, je faisais que des séances individuelles puisque j'étais plutôt en comportement et je m'intéresse aux problématiques comportementales plus que l'éducation de base, même si pour les chiots, j'apportais aussi les conseils et je faisais des séances pour les chiots. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, cette formule-là, par rapport au pari, je ne m'en cache pas, au niveau tarif horaire, c'est compliqué pour les gens, que ça reste abordable. Et moi, j'ai du mal à ce que ce ne soit pas abordable, et parce qu'il y a des gens qui te disent « non, je ne vais pas le faire parce que financièrement, je ne peux pas ». Et finalement, c'est un humain et un ou des chiens qui ne sont pas forcément bien dans leur quotidien, juste parce que ce n'est pas abordable, et ça, dans ma tête, c'est un peu difficile. Donc, du coup, j'ai essayé de réfléchir à une autre façon de fonctionner et qui peut même être encore plus constructive pour les propriétaires de chiens. C'est des petits ateliers en groupe, par thématique. Notamment un qui est principal, qui est sur comprendre mon chien, qui dure une journée complète, où même les chiens ne sont pas présents. Comme ça permet vraiment aux gens d'être concentrés, de pouvoir aborder leurs problématiques avec moi, et d'avoir toute une connaissance. En fait, ils repartent de là, ils ont de la connaissance sur le fonctionnement du chien, sur les besoins du chien, sur la communication du chien, et des clés quant à leurs problématiques. Et si il y en a à qui ça suffit, en fait, ça s'arrête là. Et pour ceux qui veulent poursuivre, je propose des séances individuelles, mais ça, c'est uniquement pour ceux qui ont vraiment le souhait de régler des problématiques particulières. Et effectivement, c'est pas en une journée de connaissance en comportement avec moi qu'on a toutes les clés et que tout fonctionne. Mais je vois qu'aujourd'hui, il y en a qui ont juste besoin d'aller chercher quelques informations et ça leur suffit. Et d'autres qui ont besoin de poursuivre. Et en fait, je réponds à ces deux demandes-là. C'est-à-dire que de manière ponctuelle, pareil, j'ai créé deux autres ateliers qui est un, obtenir un chien calme. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent des chiens calmes et qui ont du mal à l'obtenir. Donc du coup, c'était cet atelier-là, c'est sur 3 heures de temps, où il y a une partie sur le fonctionnement du chien un peu global synthétisée. Et après, de la pratique. Et en fait, là, c'est vraiment... Les gens, par contre, viennent avec leur chien. Et on peut, du coup, on peut mettre des situations réelles. Et ça leur permet d'avoir des petits conseils, en fait, du quotidien. Et des fois, qui peuvent simplement suffire. Parce que dans la relation, ça va bien. C'est juste que le chien, il est difficilement gérable. Et en tout cas, ils peuvent...
Des fois, il est trop sollicité. Des fois.
Ouais, c'est ça. Il est des fois trop sollicité. Donc, en tout cas, c'est de relisser là-dessus. Et le programme, en fait, il se fait aussi en fonction... Moi, j'ai un questionnaire. Dans tous les cas, dans tous mes ateliers, il y a des questionnaires sur le comportement de leur chien, que je comprenne comment ils fonctionnent, quelles sont leurs problématiques, quels sont les besoins, quelles sont les attentes. Et à partir de là, j'établis aussi mon programme par rapport à ce que les gens me disent. Donc moi, j'ai mon programme de base, en fait, j'ai ma base théorique. Et après, dans la pratique, je m'adapte aux besoins des gens. Ça, c'est pour moi essentiel qu'ils repartent de là avec des clés pour leur chien et pas juste sur le chien en général. Parce que ça, c'est ma partie perso. Et en tout cas, c'est d'essayer d'aider les gens qui ont une compréhension du chien en général. Et après, on spécialise pour leur propre chien. Et il y en a un autre que je crée, c'est sur les gestes et postures, parce que je me suis rendu compte dans ma pratique depuis 8 ans qu'il y a des chiens qui n'obéissent pas juste parce qu'il y a des problèmes de gestuelle et d'intonation dans la voix.
Donc, la voix.
Voilà.
La voix,
mais qui de base, le chien ne parle pas, donc on pourrait ne jamais parler à nos chiens, ça irait très bien. Sauf que le chien s'est adapté, il y a des études qui ont été qui sont sorties sur... les capacités cognitives du chien, et aujourd'hui, ils sont de plus en plus sensibles à nos codes de communication. Donc, c'est pareil, une adaptation. Nous, on est encore loin de s'être adaptés aussi bien à eux que eux à nous. Mais on y vient, on y travaille. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand on modifie juste une gestuelle ou une posture du corps ou un regard ou bref, un tournement de tête ou choses comme ça, ça peut tout changer. Donc, du coup, c'est un atelier qui vise à aider les gens à bien pratiquer les soins aussi. Donc c'est orienté et obéissance entre guillemets, conseil d'éducation et les postures à avoir avec son chien en laisse ou pas en laisse, peu importe. Et pour les soins aussi, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui ne sont pas manipulés. Quand ils arrivent chez le vétérinaire, c'est de la contention, c'est des chiens qui ne sont pas anesthésiés, mais en tout cas tranquillisés. Et finalement, ça pourrait être évité si à la maison, en tout cas, il y a des petites choses. Mais en plus, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il suffit que ce soit bien fait pendant 30 secondes et ça suffit.
Même pour soigner un animal, quand l'animal il n'a pas l'habitude
d'être manipulé,
ouais. Qu'on lui donne un médicament...
Ça peut être compliqué.
Ça peut être compliqué,
et puis ça peut être dangereux aussi.
Et oui, et oui, tout à fait.
En fonction du caractère de l'animal, de l'état de la relation, etc. Donc voilà, cet atelier-là, il dure 4 heures. Comme ça, il y a vraiment les deux parties sur tout ce qui est... Donc pareil, j'ai une partie théorique et après, je m'adapte par rapport aux clients et leurs demandes et leurs besoins. Et cet atelier-là, il sera combiné pour ceux qui le veulent. Je fais aussi des formules, parce qu'il y a un atelier sur secourisme canin qui va être monté là bientôt.
Ah, bien.
Ouais, à partir de septembre, je pense que normalement, il sera prêt. Donc, on verra ça. Et je prévois une bonne journée. Donc, c'est une journée de formation où, comme ça, en gros, c'est les gestes des premiers secours. Et je trouve que les deux se combinent bien. C'est-à-dire que dans l'atelier gestes et postures, on apprend à vraiment... adapter ses gestes et postures à l'égard de l'animal. Et donc, du coup, pour les gestes de premier secours, être encore plus aguerri sur, justement, quand on est en premier secours, en urgence, si on a déjà plus aguerri sur nos gestes et postures, on se met encore plus en sécurité et on met encore plus l'animal en sécurité lors des premiers soins d'urgence.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, ça, c'est un combo qu'on peut faire ou on peut faire simplement les deux ateliers en 10 aussi. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, il y a plein de nouvelles choses. Et puis, des balades collectives aussi et éducatives. C'est-à-dire que c'est une balade où on vient avec son chien, mais on a plein de conseils en éducation. Et pareil, je fais des petits groupes pour que ce soit favorable pour tout le monde, parce qu'il y a plein de chiens aussi qui n'aiment pas être avec plein de chiens. Donc ça, il faut le respecter. C'est très important. Ça évite les conflits et ça évite toute déconvenance, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, plein de nouveautés. Et après, il y a plein de projets qui arrivent encore pour la suite. Il y a une conférence aussi sur la stérilisation que je vais mettre en place à la suite d'un séminaire, parce qu'aujourd'hui, la question de la stérilisation revient souvent.
Oh oui.
Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je le fais? Je le fais pas? Pourquoi je le fais? Ou quels sont les motifs de la stérilisation? Donc ça reste, moi je vais l'aborder sous l'aspect comportemental, je ne me substitue pas au conseil vétérinaire, ça c'est important pour moi de le dire. Par contre, je ferai une retranscription des informations vétérinaires sur les conséquences de la stérilisation au niveau physiologique et santé, de ce qui se passe dans le corps de l'animal, et quels peuvent être les avantages ou les inconvénients, et où en tout cas, parce qu'il y a des avantages à la stérilisation, et en fonction du chien, pas des désavantages, mais en tout cas, ça, on peut l'éviter. Mais donc ça reste... j'ai envie d'aborder la stérilisation sous un ton très neutre. C'est pas bien ou pas bien de le faire. C'est juste dans quel cadre, comment on la réfléchit. Il y a aussi par rapport aux associations. Malheureusement, ça c'est... Enfin, pas malheureusement, mais en tout cas, c'est une nécessité pour justement éviter des portées non désirées.
Oui.
Et en tout cas, qu'on se retrouve avec... Il y a déjà beaucoup trop d'animaux sur cette planète, comme peut-être trop d'humains aujourd'hui. Ça, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, de limiter un peu la prolifération des populations et puis peut-être avoir moins de monde en refuge aussi.
Ça serait bien.
Donc, ce serait bien. Mais bon, ça, c'est chaque chose en son temps. On y travaille. Mais en tout cas, voilà, ça reste un petit échange convivial de 2h30 où les gens viennent avec leurs questions, où moi, je retranscris tout ce que j'ai pu apprendre. Et puis, il y a aussi, moi, mon avis et puis ce que j'ai pu observer dans mon quotidien avec des chiens non stérilisés, des chiens stérilisés. Casser aussi les croyances, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances autour de tout ça. Et l'objectif, c'est de lisser ces croyances et de se dire que des croyances qui existent depuis 20 ans aujourd'hui, elles sont révolues et qu'on peut voir les choses sous un autre angle, si on a envie de les voir sous un autre angle, parce que chacun est différent et il y en a qui ne changeront pas d'avis, et c'est tout à fait respectable et ça se comprend, ils ont leurs propres raisons et ça c'est à respecter. Mais en tout cas, si ça peut permettre à certains chiens d'être plus à l'aise dans leur corps, parce qu'il y a des chiens qui sont stérilisés beaucoup trop tôt, et ça c'est pareil, c'est un sujet que je veux aborder qui me tient à cœur, parce que ça limiterait, je pense, beaucoup de problèmes de comportement si des chiens étaient stérilisés plus tard.
D'accord.
Mais voilà, ça c'est un sujet qu'on abordera plus profondément lors de cette conférence. Pareil, je pense que je la proposerai à partir de septembre, le contenu est presque prêt, mais il y a déjà beaucoup de choses.
Oui, oui, il y a beaucoup de choses.
On ne peut pas tout faire.
Et il y a un site internet sur lequel on retrouve toutes ces informations. Je te laisse donner le site.
Le site, c'est les-du-6-chien-du-6-damahe.fr. Donc voilà, là il y a toutes les infos. Moi je reste disponible par téléphone, c'est en tout cas je reste avec plaisir à répondre aux questions parce que bah, c'est un peu un nouveau concept, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir des séances et privées chez soi ou en club canin. J'insiste là-dessus, c'est que c'est pour moi un vrai complément aux séances en éducation canine, même avec son éducateur canin, ou au club canin. Parce qu'en fait, moi j'aborde le chien sous l'aspect un peu scientifique, si on peut dire ça comme ça, avec des conseils pour le quotidien, etc. Mais comme moi je poursuis pas, hormis pour ceux qui ont besoin de séances individuelles, je peux pas proposer ce que les clubs canins proposent. Et c'est surtout que c'est un peu de la connaissance en amont des séances en éducation canine. Et là, moi, je réfère après vers des consoeurs et confrères du coin avec qui je suis en contact. Et parce que je ne pourrais pas couvrir tout le secteur en séance individuelle. Donc, c'est important pour moi de relayer. Et c'est surtout que bah, ça peut être simplement ceux qui ont envie d'apprendre des choses sur le chien. Bah, ces ateliers sont là pour ça. Et après, ils peuvent poursuivre avec leur éducateur canin à côté ou les séances en club canin au contraire. Je trouve que c'est même plutôt complémentaire et j'aime cette notion de complémentarité. Donc, voilà.
Merci beaucoup Maëva.
Avec plaisir.